Donc, dimension politique, industrialisation, concurrence des véritables informations, trois éléments déjà permettant de caractériser un peu notre objet. Laurent Vigo, est-ce que vous pouvez peut-être préciser un petit peu ce que sont les fake news et comment vous les approchez aussi en tant que chercheur ?
Oui, alors, juste pour apporter une petite précision par rapport à ce que tu viens de dire et qui apparaît en filigrane dans tes propos, mais qui n'est pas forcément évident, c'est la façon dont on traduit fake news, c'est-à-dire qu'on évoque ici les fausses nouvelles, et les fake news, c'est un peu différent, c'est-à-dire que la fake news, a priori, elle est fabriquée pour tromper, donc c'est ce que tu expliquais à propos des jeunes en Macédoine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens se mettent à fabriquer volontairement une fausse information pour la diffuser, pour éventuellement gagner de l'argent ou pour nuire à autrui, si c'est ça l'objet de départ. Après, une fausse nouvelle, ça peut être beaucoup d'autres choses. Hein, ça peut être juste une fausse nouvelle parce que nouvelle inexacte. Qui là, par exemple, peut être relayé par des médias tout à fait fiables sur d'autres choses, mais qui tout d'un coup se trompent dans la transmission d'une information. Donc il faut faire ce distinguo entre toutes les formes que peuvent prendre les fausses nouvelles et puis les fake news vraiment réalisées à dessein pour tromper. Après moi, la manière dont j'aborde ce sujet-là dans mes travaux, c'est à travers le travail des gens qui sont là pour vérifier l'information. Alors je ne sais pas si je peux développer ça tout de suite ici, mais ou si tu préfères qu'on y revienne.
Du coup, ça va nous conduire aussi peut-être à la dimension de nouveauté ou non de ces fake news. Et peut-être on peut introduire d'emblée, à travers votre approche et vos recherches, la dimension, la perspective un peu historique en fait, de ces fake news. Est-ce que c'est un phénomène exclusivement contemporain de ces quelques dernières années, ou est-ce qu'on peut voir une profondeur historique plus grande en fait, pour ce type d'objet ?
Alors, pour ce qui concerne globalement les fausses nouvelles, puisque c'est le thème ici de notre réunion, bien évidemment qu'il n'y a rien de nouveau dans ce phénomène-là. De tout temps, des fausses nouvelles ont circulé. De tout temps, des gens se sont, et des médias se sont trompés dans leur manière de rendre compte de l'information. Ce qui est relativement nouveau en revanche, ce qui est même très nouveau en revanche, c'est la manière dont circulent ces fausses nouvelles, ou en tout cas et ces fake news. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se trompe, on peut toucher, ou quand on décide de nuire à quelqu'un à travers une fake news, on peut immédiatement bénéficier d'un écho très très important, et notamment via les réseaux sociaux, comme l'a expliqué Romain. Donc en fait, c'est la vitesse de propagation d'une fausse nouvelle ou d'une fake news qui fait qu'on a vraiment changé d'écosystème de manière de véhiculer les fausses nouvelles. Donc ça, c'est la vraie nouveauté. Pour le reste, bien entendu que ça n'a rien de nouveau. Il y a des exemples dans toute l'histoire, et il y a des exemples aussi dans toute l'histoire de journalistes qui, on y reviendra je pense, cherchent à s'organiser pour lutter contre la propagation des fausses nouvelles.
J'ai glissé pour compléter peut-être la définition de l'objet d'étude et puis aussi la question de la nouveauté au nom des fake news.
En réalité, c'est le terme lui-même qui résonne sur les derniers mois, y compris parce que ça permet de lui donner une modernité. On ne va pas se cacher, y compris sur le cadre français, quand on utilise un terme en anglais, quelque part ça fait bien, ça met au goût du jour. Et que là, il y a la dimension de fabrication qui ressort, même si nous, en français, on ne l'interpelle pas comme tel, le fake. Pour ceux qui parmi vous s'intéressent à la langue anglaise et qui sont peut-être forts dans les cours d'anglais, ce n'est pas la même chose que false, le F-A-L-S-E. Où elle serait fausse. Fake, c'est particulièrement fabriqué. Donc, je ne vais pas répéter ce que mon collègue Laurent ici vous a dit et ce que tout à l'heure Romain vous a explicité sur les jeunes de Macédoine. Et elles ont du coup des intentions différentes. Pour le coup, elles ne sont pas nouvelles. Et le fait de vouloir tromper, d'une part, avec des nouvelles fabriquées et de l'ordre de la rumeur ne sont pas nouvelles elles-mêmes. Le fait de se tromper à la fois quand on est journaliste et quand on est un public et qu'on va parler à ses voisins, à sa famille ou à d'autres de quelque chose dont on a entendu parler, mais qui est incertain, là non plus n'est pas nouveau. Ce qu'il faut comprendre, et j'imagine qu'on reviendra un tout petit peu tout à l'heure, mais sans être barbant, c'est qu'il y a un cadre de régulation aussi, à la fois économique, mais même législatif, qui pose question aujourd'hui, y compris pour ce que les pouvoirs veulent se réapproprier. Il y a une loi à la fin du 19e, la loi de 1881, que normalement vous avez révisée comme étant les lois de liberté de la presse, qui pose déjà la question des fausses nouvelles. Ce qu'il faut que vous ayez quand même en tête, c'est qu'elle n'est pas toujours dirigée au profit des citoyens. En 1881, quand on a fait cette loi sur les fausses nouvelles, c'était parce qu'on s'alarmait qu'il y ait des rumeurs, et y compris nuisibles, pour les cours de bourse. Vous pouvez tromper un ennemi financièrement, une entreprise, en étant malveillant, et que son cours de bourse s'effondre, et que cette entreprise, à un moment ou à un autre, mette la clé sous la porte. Donc on est sur des choses qui sont en dehors du débat citoyen, bien souvent en dehors du débat journalistique lui-même, mais effectivement il n'y a pas de nouveauté. Et puis, j'imagine que Romain tout à l'heure a prévu d'en reparler, il y a aussi le fait de croire à. Et il y a toujours eu ce besoin du côté de l'humanité de croire à des choses qui sont invraisemblables, et même si elles sont fausses, et de ne pas avoir envie d'entendre qu'elles sont fausses, de continuer à les croire comme vraies. On ne parle pas ici de choses qui seraient de l'ordre de la fiction, de l'ordre du vraisemblable, de l'ordre de la réalité de tous les jours. Donc effectivement, c'est pas nouveau, mais ça vous permet de mettre différents termes sur autre chose que cette appellation elle-même fake news.
Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez été attentif à la sortie de l'hebdomadaire Le 1 consacré aux fausses nouvelles, mais j'imagine bien que vous l'avez vu et que vous l'avez lu. Il y a un article d'un journaliste qui s'appelle Éric Scherrer, qui est titré, je crois, Un danger mortel pour nos démocraties. Les fake news, un danger mortel pour nos démocraties. Alors, côté un peu grandiloquent, presque un peu dramatique, et peut-être que dans le public, certains d'entre vous se disent, mais finalement, bon, si ces fake news sont produites, on peut très certainement légiférer, peut-être tout simplement les déconstruire, croiser nos sources pour éviter le danger qu'elle pourrait représenter. Moi, j'aimerais bien que nos trois invités décryptent un petit peu mieux les menaces que font peser les fake news sur peut-être la vie politique, plus largement sur nos démocraties ou sur la manière dont le citoyen peut évoluer, alors en temps électoral, mais peut-être aussi hors période électorale. Question qui est un peu vaste, mais vous pouvez choisir bien sûr le jeu.
Disons que parmi tous les dangers effectivement que ça fait courir sur la démocratie comme le dit Scherrer, c'est le premier, c'est peut-être que ça peut déstabiliser toute puissance en place, ça peut déstabiliser un pouvoir politique, ça peut déstabiliser un pouvoir économique, ça peut déstabiliser toute institution quelle qu'elle soit. D'une part parce que les personnes qui en sont à l'origine peuvent effectivement être mal intentionnées et donc avoir cette volonté de nuire à l'autre, et aussi parce que ça a très vite un impact, c'est-à-dire que vis-à-vis du public, le fait d'apprendre quelque chose n'est peut-être pas aussi clair que on veut bien le dire en général dans les médias ou qu'on veut bien le dire en général dans la société. Le fait de se dire que peut-être on nous aurait caché quelque chose de spécifique, ben oui, on va susciter les croyances du plus grand nombre avec ce genre d'informations. Et de ce fait, à partir du moment où on obtient l'adhésion du plus grand nombre, on est en mesure peut-être de faire basculer le résultat d'une élection, de faire basculer le bien-être d'une entreprise, ou en tout cas son cours en bourse, etc., comme le disait Jérémy. Donc voilà, à partir de là, le danger, il est totalement réel. On voit bien d'ailleurs, ce qu'est en train de faire le gouvernement et Emmanuel Macron en annonçant un projet de loi sur anti-fake news qui notamment permettrait de pouvoir agir rapidement, notamment sur les réseaux sociaux, dans les périodes électorales tout particulièrement, parce qu'on se méfie de la manière dont ça pourrait faire basculer sur quelques jours, à cause d'une propagation extrêmement rapide et extrêmement forte, le résultat d'un scrutin présidentiel, par exemple.
Oui, effectivement, je pense que c'est ce point-là, la question de l'influence de ces fausses informations sur l'opinion. Une anecdote dont là aussi on a beaucoup parlé en campagne française cette fois-ci, lorsqu'Emmanuel Macron arrive dans l'usine Whirlpool qui est en grève, les ouvriers ne veulent pas lui serrer la main, ils lui disent de toute façon on t'a vu, on sait que tu ne serres pas la main des ouvriers, tu ne serres pas la main des pauvres. En gros c'est comme ça qu'il est accueilli. Et en fait, donc cette scène elle a été filmée, elle a été reprise dans toutes les télévisions, et en fait cette croyance vient d'un montage vidéo dans lequel on voyait Emmanuel Macron serrer des mains, puis après se nettoyer les mains comme s'il avait les mains sales, qui était en fait un montage de deux vidéos différentes. Dans la deuxième, Emmanuel Macron s'essuyait les mains parce qu'il était allé rendre visite à des pêcheurs, et donc il avait touché du poisson et il s'essuyait les mains... Des anguilles, voilà, c'est ça. Et voilà, donc ça nécessite pas une grande compétence technique de faire un petit montage pour laisser croire que Emmanuel Macron se lave les mains lorsqu'il va serrer les mains des ouvriers, mais c'est un effet dans l'opinion puisque beaucoup de gens y croient. Alors ça, c'est pour l'anecdote. Après, dans les faits, la question, est-ce que les gens y croient vraiment à ces fausses informations? Ça, c'est ce que disent les recherches là-dessus, c'est un peu plus ambigu. On se rend compte plutôt que les gens ne croient pas forcément dur comme faire aux fausses informations qu'ils partagent, mais c'est plutôt qu'ils vont adhérer à la vision du monde qui est derrière ces fake news. C'est-à-dire que lorsqu'on va partager des fausses informations contre Emmanuel Macron, qui vont avoir, ou alors contre les migrants, qui vont avoir une forte tonalité xénophobe, c'est pas forcément qu'on croit à ce que dit la fausse information, mais qu'on veut exprimer une opinion de défiance par rapport aux politiques. Et en ce sens, on voit bien qu'il y a vraiment une articulation, un lien entre le partage des fausses informations et les convictions politiques. Et donc, à ce moment-là, on peut dire aussi qu'elles n'ont pas tant d'influence que ça, ces fausses informations, puisqu'elles vont d'abord toucher des gens qui sont déjà convaincus. Mais ça, c'est pas lié que aux réseaux sociaux et à Internet. On le sait depuis longtemps avec la réception des médias, que les messages médiatiques, les discours médiatiques sont reçus de manière très différente suivant les convictions politiques des uns et des autres.
Jérémy Lisset, a-t-on raison de craindre les fausses informations et de les considérer comme un danger pour la vie démocratique?
Ceux qui les craignent le plus actuellement, ce sont, ça a été un petit peu dit déjà, les pouvoirs politiques et économiques, les pouvoirs journalistiques aussi en partie, parce qu'ils ont perdu ce qu'on appelle le magistère de la transmission de l'information, c'est-à-dire que les infos circulent et les faits dont vous prenez connaissance ou dont vous preniez connaissance, vous les preniez à travers des filtres médiatiques et particulièrement journalistiques. Les journaux, les radios et les télévisions, et le nombre des personnes qui y circulent est peu nombreux, étaient les seuls à pouvoir vous transmettre quelque chose. C'était d'ailleurs assez à sens unique. Et depuis qu'Internet existe, mais plus encore depuis le fait que les réseaux sociaux, à mon avis, permettent de partager, fait qu'aujourd'hui vous informez de façon diverse et que les canaux par lesquels vous informez sont multiples, mais surtout que vous décidez par lesquels vous allez passer et que vous allez, parce que vous n'avez que 24 heures dans une journée, peut-être prioriser certains, prioriser, on l'a dit tout à l'heure, vos amis, on n'a pas besoin d'ailleurs des réseaux sociaux pour ça, on croyait aussi déjà beaucoup ce que les autres vous racontaient, tout le monde n'avait pas le temps de lire le journal, la radio et la télévision, quelles que soient les époques où elles sont apparues. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un danger? C'est qu'on ne part pas du tout. Et là, c'est important pour vous par rapport à ce que va être la fiabilité que vous allez pouvoir estimer des sites sur lesquels vous tombez. On ne part pas tous à égal sur la perception de l'information et des sites sur lesquels vous tombez, d'une part. On ne part pas tous, y compris à la fois en termes de maturité, vous-même sur vos propres profils dans 2 ou 3 ans et plus encore dans 10 ans, sur une culture du doute. Vous aurez appris énormément de choses dans les 10 ans qui viennent, qui fait qu'on vous la fera moins sur telle ou telle information. Quand bien même, à un moment ou à un autre, vous aurez une propension à y croire, c'est-à-dire envie d'y croire, à un moment ou à un autre, vous vous direz « c'est gros ». Y compris sur le point que tu montais là d'un montage qui n'aurait pas pu circuler sur une campagne électorale et il ne se serait pas laissé filmer Macron si réellement il s'était essuyé après avoir serré les mains d'un ouvrier. Quoi vous pensiez de ce candidat-là? Et ne me demandez même pas ce que j'en pense moi. En réalité, on n'aurait pas eu une caméra à ce moment-là dans sa voiture pour le voir s'essuyer les mains. Ils sont assez habiles en communication pour cacher ce genre de choses, quand même ça existe. Pourquoi il y a un danger? Parce qu'ensuite, sur l'étape du dessus, au-delà de vos perceptions individuelles, ce que vous allez discuter avec ceux qui sont autour de vous, ici, au moment où vous êtes en pause, ou même quand vous êtes en salle de cours, ou quand vous êtes chez vous, ou quand vous êtes dans vos loisirs, se fait en général, et a fortiori sur une campagne électorale, sur un temps court, avec un enjeu qui est lui-même électoral pour les années qui suivent de ceux qui vont vous gouverner, ben, pas d'égal à égal. C'est-à-dire que si on doit à un moment ou à un autre voter, on va le faire sur des choses qui sont censées pas être une vérité, on sait qu'elle n'existe jamais dans l'absolu, et qu'elle est une question de perception, mais de ce que sont des formes de réalité, à la fois construites sur des discours, mais surtout de choses dont on peut estimer, pour l'ensemble des Français, quand il s'agit d'une élection nationale par exemple, ben, tout le monde parle un petit peu de la même chose. Ici, on a quand même largement un glissement, qui fait que ben, on n'a pas les mêmes choses dont on discute, pas d'égal à égal, et avec des niveaux d'interprétation complètement différents. Vous allez me dire, de toute façon, dans une élection, tout le monde ne s'intéresse pas à tout, que ce soit les questions environnementales, politiques, purement économiques, financières, etc., etc., d'emploi. Vous-même, vous allez regarder, selon vos âges, ici, et quand vous serez en âge de voter, certains sans doute le sont déjà, vous intéresser à certaines des questions qui ne sont pas les mêmes que ceux de vos parents, pour parler de ceux qui vous sont proches le soir quand vous rentrez. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, quand vous venez quand même en parler avec eux, il faut que vous soyez en train de parler de la même chose avec des perceptions et des faits, entre guillemets, ce sur quoi se fondent les journalistes depuis le début, qui soient fiables. Donc faites attention à ça, y compris bah, parce que si ça n'est plus le cas, de quoi parle-t-on ? Si vous êtes en train de parler de quelque chose qui est arrivé hier, que votre voisin est en train de parler d'une fiction qu'il a vue il y a 10 jours et qui semble se passer elle-même aux États-Unis avec elle-même un homme politique ou une femme politique et un accident d'avion, que sais-je, ben vous verrez rapidement que vous n'allez pas vous mettre d'accord parce que vous n'êtes pas en train de parler de la même chose. Donc c'est un petit peu le risque que ça fait courir, a fortiori, vous le sentez, quand vous reprenez le pouvoir, on peut l'imaginer encore un tout petit peu existant en France, même s'il a ses limites, d'une élection sur laquelle c'est vous qui mettez votre bulletin dans l'urne.
Globalement, j'ai l'impression que vous êtes à peu près d'accord pour être un peu moins grandiloquent que Scherer, mais en même temps, noter, oui, il y a un risque effectivement de déstabilisation d'un scrutin électoral, de déstabilisation d'une institution, peut-être de déstabilisation aussi de réputation individuelle. Donc il y a clairement des risques que vous avez soulignés, hein, à la risque lié à la diffusion de ces fake news. Alors du coup, on pourrait se demander maintenant, est-ce que au niveau individuel, nous avons les moyens de nous protéger contre les fake news ? Et si oui, comment ? Et au niveau plus collectif, vous avez évoqué le projet du gouvernement actuel, évoqué la loi de 1881 qui fait déjà mention des fausses nouvelles. Il y a aussi des outils qui ont émergé de la profession depuis quelques années. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de cette lutte individuelle et collective que nous pouvons essayer de mener. Je vais peut-être partir de Jérémy, parce qu'il a tendance à conclure les cycles, donc on va lui donner la primeur sur cette question-là.
J'ai réfléchi quand vous nous avez invité à être présent aujourd'hui, au-delà des travaux qu'on mène, plus particulièrement avec Laurent, sur comment les journalistes font face à ça, y compris avec un risque, peut-être que tu le souligneras, Laurent, que quand les journalistes se mettent à mettre leurs doigts sur ce qui semblerait être vrai ou faux, on va finir par les accuser, particulièrement quand on est complotiste, de bah, vous alimenter la machine des gouvernements. Vous-même, vous êtes à proximité des puissants et vous êtes en train de nous dire quoi croire, quoi lire. De quel droit le faites-vous ? Pourquoi est-ce que vous seriez au-dessus et pourquoi il y aurait ce contrôle de l'information ? Au-delà de ça, parce que vous la posez en termes individuels, en préparant ce qu'allait être notre échange, je me suis dit deux choses. D'une part, il y a évidemment une méfiance. Elle n'est pas nouvelle, parce qu'on sait que l'information, elle est aussi en partie manipulée, surtout dans des contextes de crise ou dans des contextes à fort enjeu, y compris de guerre. Vous l'avez sans doute travaillé, vous, dans les cours, que ce soit pour une période assez récente, entre guillemets, que peut être la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, vous savez bien que toutes les informations ne circulaient pas et qu'on les cochait, y compris à proximité à certains des publics les plus touchés, c'est-à-dire les soldats eux-mêmes. Toutes les lettres ne repartaient pas vers leur famille, par exemple, ça vous avez dû l'apprendre. On parle de cette méfiance, et en fait, souvent, quand on utilise le terme de méfiance, on l'évoque avec un vis-à-vis. On dit une méfiance vis-à-vis du pouvoir politique, ou méfiance vis-à-vis vous, de vos profs, par exemple. En réalité, je pense qu'il faut la renverser. D'ailleurs, le verbe lui-même en français dit bien « se méfier ». C'est vous qui, à un moment ou à l'autre, allez mettre une part de vous-même pour vous méfier. Et la première attitude, je pense, elle est de se méfier de ce qui vous semble évident. De vous méfier de ce qui vous satisfait, y compris par ce que Romain a explicité tout à l'heure, ce qu'on appelle, je crois que tu l'as nommé tout à l'heure, les bulles de filtre sur Internet. C'est-à-dire, vous êtes cloisonné sur un espace où vous recevrez des nouvelles et ce que vos proches vont vous adresser et les publicités elles-mêmes voient ce qui convient déjà à vos profils. Si vous vous méfiez de ça, et si vous allez toujours chercher la petite bête, Si vous dites et si j'étais un autre, et si mon profil n'était pas renseigné de la même manière, et s'il n'était pas renseigné avec mon âge de 18 ans, mais si j'avais triché en mettant, alors peut-être pas 13 ans, comme quand vous avez triché pour avoir votre premier Facebook, parce qu'il fallait absolument avoir 13 ans, et même si vous en aviez 11, bah, la machine n'avait pas détecté. Imaginez que vous auriez mis que vous avez 35 ans, ou que vous étiez du genre ou sexe opposé, ou que vous travaillez ou vous êtes d'une autre ville. Qu'est-ce que j'aurais pu recevoir et surtout qu'est-ce que j'aurais pu penser? Est-ce que là, ça serait en contradiction ou en adhésion avec ce que je pense déjà? Vous êtes déjà sur une posture réflexive. Ensuite, les journaux, les mags, les émissions de radio ou de télévision que vous adorez, ne regardez pas que celles-là. Et si à un moment ou à un autre, vous continuez de les écouter, dites-vous, qu'est-ce que pourrait penser quelqu'un qui ne les apprécie pas forcément? Y compris vos parents, quand ils vous charrient, si vous êtes en train de regarder telle ou telle émission ou qu'ils en ont marre que vous soyez sur telle ou telle site. Donc se méfier. Parce que finalement, si vous le faites, vous serez déjà sur une posture réflexive. Ça ne veut pas dire que vous serez sur une paranoïa, à ne plus rien croire, mais vous serez sur une réflexion intelligente. Et je vais vous donner un exemple qui, à mon avis, va vous être cher, c'est que même les personnes les plus intelligentes se font avoir quand ça corrobore ce qu'elles pensent déjà. Vous êtes ici dans le lycée Voltaire, qui n'est quand même pas connu comme étant le plus gros menteur de France et qui semble être une figure intellectuelle reconnue, qui a inondé en dehors de ce que peut être la science et la littérature, y compris pour des mondes sociaux différents. Et c'est par hasard si aujourd'hui je pense que c'est positif qu'on appelle un lycée Voltaire. Pour autant, je suis allé faire quelques recherches à l'approche de ce que peut être notre échange ici. Et il m'a été intéressant, au-delà des littératures, ou des livres, ou des productions littéraires qui ont été les siennes, et des réflexions philosophiques qui ont été les siennes et reconnues comme de valeur, de constater que lui-même s'est planté sur certains... Mais personne ne se plante pas, personne n'est infaillible. Lui-même s'est planté particulièrement quand, à un moment ou à un autre, il a mis de l'affect. Vous avez peut-être entendu parler dans certains de vos cours du tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Il a même écrit un poème pour ça, que vous retrouvez, je vous invite pour le coup, soit, je ne crois pas que ce soit autorisé, là, quand vous êtes dans un échange comme dans un cours, d'allumer tout de suite vos smartphones, mais de le faire dans la foulée de notre échange, ou ce soir, allez lire, et quitte à ne pas lire l'intégralité, mais vous y retrouverez des résonances avec ce que vous avez appris ailleurs dans d'autres cours, ce qu'il écrit. Oui, il y a quelque chose qui m'a marqué en relisant ce texte. Le texte s'appelle « Poème... » sur ou concernant le désastre de Lisbonne. Il apprend les nouvelles depuis l'étranger, depuis la France en réalité. Donc il les apprend par ce qui circule, et particulièrement ce qui circule dans les journaux, pardon, à ce moment-là. L'événement se produit le 1er novembre 1755. Donc il ne peut pas en avoir connaissance tout de suite, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux, où il y a non seulement une urgence et une vitesse de l'information, mais surtout une ampleur, vous êtes touché tout d'un coup en masse. On va apprendre ça en France toute fin 1755 et tout début 1756. C'est pour ça que le texte lui-même et pas mal des articles de journaux sont plutôt de 1756, même si vous l'avez compris, l'événement, il était de fin 1755. C'est important, pourquoi? Parce que ça laissait le temps d'aller un peu corriger les choses. Alors que là, l'ampleur fait que tout d'un coup, ça peut être catastrophique comme une traînée de poudre en quelques minutes, finalement. Dans son texte, parmi les erreurs que j'ai réussi pour l'instant à débusquer, mais sans avoir assez de temps pour aller creuser la question, mais ça m'invite à moi-même à peut-être le faire, y compris sur des événements parfois anciens. Première chose, il nous dit qu'il y a 100 000 infortunés qui ont été touchés, etc., par l'accident. En réalité, il semblerait, d'après les traces historiques, qu'on soit entre 50 et 60 000, peut-être 70 000. Vous allez dire qu'on allait ici chercher la petite bête, mais ça n'a pas la même conséquence, y compris localement. Ce que ça vient corroborer, c'est que pour lui, l'événement a de l'importance, si on commence à toucher un chiffre assez symbolique, le 100 000, et que, y compris internationalement, ça a vocation d'aller en parler. Pourquoi je vous le mentionne? Parce qu'y compris dans les critiques qui sont faites vis-à-vis du fact-checking, cette activité journalistique de vérification, c'est le fait que les journalistes se focalisent parfois sur la virgule. Mais quand ils se focalisent sur la virgule, et qu'un homme politique à chaque fois triche d'une virgule, quand ça l'arrange sur un nombre de chiffres conséquents, évidemment qu'il est en train de construire sa carrière politique et son ambition électorale, et qu'au bout d'un moment, on est peut-être de nature à moins le croire. Or ici, on n'est pas juste sur de la virgule quand on passe de 50, 60 000 à 100 000. Une des autres mentions qui m'est importante dans ce texte-là, et vous connaissez la nature de Voltaire à différentes facettes, c'est qu'il semble conclure, à la lumière de beaucoup de sources, il va aller chercher beaucoup de références philosophiques, y compris sur ce genre d'événement, que finalement, l'événement, on peut l'imputer à qui ? Ce tremblement de terre, pas tant à la nature, au cycle géologique qui existe, mais à Dieu. Dieu nous envoie au bout d'un moment un signal, on ne peut pas trop résister, Dieu est un peu vachard. Ben oui, ça correspond aux coutumes de l'époque et à ce qu'on pensait, ce que je vous ai dit comme étant vos croyances. Mais finalement, c'est même pas un hasard en réalité qu'il pense à Dieu tout de suite. C'est que c'est arrivé le 1er novembre 1755. Alors j'imagine, quelles que soient vos religions, qu'à un moment ou à un autre, ça fait tilt sur cette date-là. C'est la date de Toussaint. Vous êtes sur une semaine où vous êtes en train de penser, c'est même célébré davantage à cette époque-là, la Toussaint. Donc vous pensez à Dieu. Et tout d'un coup, ce truc arrive, ça corrobore dans votre tête, et même quand vous êtes Voltaire, que c'est Dieu. C'est Dieu qui, à un moment ou à un autre, est responsable de ça. Et donc il fait tout un texte. Alors tout le texte ne porte pas sur ça, mais ça vous montre qu'à un moment ou à un autre, même les gens les plus intelligents, quand vous êtes dans une tournure d'esprit, si vous ne prenez pas du recul, soit sur des choses mineures, mais ici sur des choses de plus grande ampleur, ben vous allez être trompé, y compris par vous-même. Vous l'avez compris, les gens parfois cherchent à vous tromper. Oui, les hommes politiques cherchent parfois à vous tromper. Oui, les journalistes se trompent, mais c'est une erreur de penser qu'ils veulent vous tromper, ou alors ils ont mal choisi leur métier, ou ils ont abusé à un moment ou à un autre de leur carte de presse. Oui, les profs se trompent, mais ils ne cherchent pas à vous tromper. Non, mais il leur arrive, pardon, j'ai oublié parfois dans la phrase. Je le suis moi-même aussi, on est chercheur et enseignant. Oui, et il vous arrive surtout de vous tromper, mais souvent, surtout, vous vous trompez vous-même. D'accord ? Donc mettez ça en miroir, vous verrez que vous regarderez différemment les choses, pas tant d'une manière complotiste ni même paranoïaque, mais sur lequel vous avez, vous, une responsabilité. Et a fortiori, comme l'a dit Romain, quand vous-même, vous allez aller faire partager une information.
Merci beaucoup. Alors, sur ces moyens de lutte, le terme de fact-checking a été lancé. Laurent, je vous laisse bien la parole peut-être avant de laisser la parole à Romain.
Oui, alors je ne remonterai pas jusqu'à Voltaire pour ma part, mais le fact-checking, effectivement, c'est un terme qui existe en matière de journalisme depuis assez longtemps, en tout cas au moins le début du XXe siècle au moins, et qui, dans un premier temps, a décrit l'activité des journalistes qui, aux États-Unis, dans les rédactions des premiers news magazines, magazines d'actualité, se sont mis à vérifier tous les contenus de leurs magazines avant la publication de ces magazines. C'est-à-dire, l'idée, c'était de passer un maximum de temps à vérifier l'information pour être sûr de ne pas tromper le lecteur, d'une part, et puis aussi, il y avait un autre objet qui lui consistait à éviter de produire des contenus qui pourraient être attaquables devant les tribunaux ou qui aurait mis quelqu'un dans l'embarras et qui aurait décidé d'attaquer les journaux. Bref. Donc ça a commencé comme ça, le fact-checking. Et puis, à partir des années 2000 aux États-Unis et puis ensuite en France et ailleurs dans le monde, Ça a évolué, cette pratique, et finalement, des journalistes fact-checkers, il y en a aujourd'hui un petit peu partout, qui sont là pour vérifier l'information en général, et d'abord, en priorité, l'information politique. C'est-à-dire qu'à partir du début des années 2000, dans les rédactions, on s'est dit, tiens, si on se mettait à vérifier d'une façon un petit peu plus poussée ce que disent les hommes politiques. Alors on s'est mis à sélectionner comme ça dans l'espace public des phrases qui avaient été prononcées par tel ou tel homme politique, soit dans une interview à la télé, à la radio ou lors d'un meeting. Et puis on a regardé si dans ces phrases, dans lesquelles souvent il y avait un chiffre qui a été cité, eh bien ce chiffre était vraiment exact, ou si l'homme politique en question avait tout simplement fabriqué un discours qui l'arrangeait bien pour vendre mieux ses idées au plus grand nombre. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait finalement pas mal de travail et qu'on arrivait comme ça à faire des articles assez sympathiques où on pouvait dire non, Nicolas Sarkozy, vous n'étiez pas à Berlin le soir où le mur est tombé, par exemple. Et puis tout un tas comme ça de démentis qu'on apportait et qui permettaient aux équipes des jeunes journalistes qui pratiquaient ça, souvent des jeunes journalistes des rédactions web des principaux médias, de pouvoir démentir les propos du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement et de toutes les personnalités qui faisaient des déclarations de ce type-là. Donc voilà, on est passé à ça, et puis il s'est avéré que plus récemment, il y a eu cette méfiance vis-à-vis de ce qu'on appelle donc les fausses nouvelles et les fake news dont on vient de parler. Et là, on s'est dit dans les rédactions, bah, qui pourrait intervenir sur ces questions-là. Et il s'est avéré que les fact-checkers, qui avaient travaillé beaucoup sur la politique pendant une dizaine d'années, se sont retrouvés finalement en pole position pour être capables de démentir toutes ces fausses nouvelles qui pouvaient être amenées à circuler sur les réseaux sociaux. Si bien qu'aujourd'hui, ce sont eux que vous pouvez... consulter en parallèle de la consultation que vous faites des réseaux sociaux, des médias et de ce que vous communiquent vos camarades, par exemple à travers des sites internet comme Check News, qui est un site internet créé par Libération, qui avait auparavant une rubrique qui s'appelait Désintox. À travers Check News, si vous avez une question sur une information qui vous paraît peut-être un petit peu suspecte, vous posez votre question, les journalistes y répondent et vont chercher à la démentir s'ils jugent que ça vaut le coup de le faire ou s'ils ne l'ont pas déjà fait, auquel cas ils vous renvoient vers leur travail. Donc il y a ça, il y a également les décodeurs qui font la même chose pour le journal Le Monde. Il y a des radios qui continuent à faire ça aujourd'hui, comme France Info, le vrai du faux sur France Info, le vrai faux de l'info sur Europe 1. Vous avez comme ça tout un tas de médias qui s'adonnent à cet exercice du fact-checking et qui, même s'ils ne répondent pas entièrement aux questions que vous posez à un moment donné, vous donnent en tout cas un mode opératoire intéressant à avoir en tête. Comme le disait Jérémy, c'est vrai que c'est à vous d'avoir un regard un petit peu aiguisé par rapport aux informations qui vous arrivent, et à travers la lecture de quelques-uns de ces articles ou la consultation des rubriques des médias que je viens de vous citer, notamment à travers ça, vous pouvez acquérir finalement des réflexes. Et le réflexe premier étant de se dire il y a peut-être une autre source pour cette information, et de faire comme les journalistes, c'est-à-dire commencer par vous-même à croiser vos sources. C'est-à-dire que vous pouvez lire une information dans un média, vous pouvez lire une information sur un blog que vous connaissez mal, vous pouvez entendre parler d'une information ici au lycée. Ce qui va faire que vous serez en mesure de ne pas vous laisser tromper, c'est votre capacité à croiser ces différentes informations et à un moment de vous dire ben oui, alors elle est peut-être fiable, elle semble fiable, ou alors au contraire, elle est totalement trompeuse.
Merci beaucoup. Romain Ballard, je vais me permettre de compléter un peu ma question par rapport à tous les éléments apportés par Laurent Bigot et au rôle en fait, d'expertise que se propose de jouer un certain nombre de rédactions. J'aimerais aussi savoir, connaître votre point de vue, est-ce que c'est réellement à une rédaction d'évaluer le travail, enfin, un travail de vérification des productions des autres rédactions? C'est un débat qui a eu dans la profession au moment de la mise en place du décodex, proposé au départ par Le Monde, donc à l'origine alors quelqu'un d'ailleurs du Monde qui n'a malheureusement pas pu se libérer. Mais voilà, en revenant sur ces solutions possibles, est-ce que Check News ou le décodex vous paraissent être des solutions vertueuses? Est-ce qu'il faudra instaurer une forme de collégialité? Voilà, j'aimerais bien avoir votre point de vue. J'imagine bien que Laurent, vous avez aussi un point de vue sur la question, mais on en verra sans doute tout à l'heure.
Alors ça, c'est effectivement le nœud du problème. C'est-à-dire que pour lutter contre les fausses informations, on a besoin de différents acteurs. On a besoin des journalistes. Alors on a parlé du fact-checking. Effectivement, les journalistes sont peut-être pas les mieux placés, mais en tout cas, ils sont très bien placés pour faire ce travail de vérification des informations, puisque c'est leur métier. Donc, quand les décodeurs du Monde ont mis en place le décodex, alors si vous ne connaissez pas cet outil, je vous invite à aller le voir. Le décodex, c'est à la fois un moteur de recherche. Si vous avez un doute sur une source d'information que vous voyez passer sur Facebook ou autre, vous entrez le nom du site sur leur moteur de recherche, décodex, et ils vont vous dire est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il n'est pas fiable, etc., etc. Vous pouvez même mettre une petite extension sur votre navigateur, vous téléchargez l'extension du décodex, et puis quand vous êtes sur votre navigateur, vous visitez des sites, et le plugin vous dit attention, c'est fiable, enfin, il vous dit pas attention, c'est fiable, il vous dit plutôt attention, c'est pas fiable, ou là c'est bon, vous pouvez y aller. Alors c'est intéressant justement pour stimuler l'esprit critique, ce genre d'outil, parce qu'on se dit tiens, effectivement, est-ce qu'ils ont bien respecté les règles que respectent les autres journalistes qui sont censés respecter, vérifier les sources, croiser les témoignages, etc., etc. Pourtant, quand le Monde a sorti cet outil, le décodex, effectivement, ça a suscité une controverse qui était est-ce que ce sont des journalistes qui doivent décider de quel type de source est fiable ou non. Je vous disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, ce qui change, c'est que toutes les sources sont au même niveau, que ce soit Le Monde, Libération, Le Figaro ou le blog de votre cousin éloigné, a priori, ils se présentent tous de la même façon. Elles ne sont pas vraiment au même niveau parce qu'ils n'ont pas le même pouvoir de relais, mais quand même, ils se présentent sous la même forme. Et donc, ce qu'on a reproché aux journalistes du Monde, c'était de dire qu'ils n'étaient pas légitimes pour faire ce travail parce qu'ils étaient jugés partis sur ce marché de l'information en disant vous n'êtes pas légitimes. On les a accusés de chercher à décrédibiliser des concurrents potentiels sur le marché de l'information que sont les réseaux sociaux. Donc, les journalistes ont leur rôle à jouer, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Qui on a ? On a les pouvoirs publics. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais le gouvernement a annoncé la mise en place d'une loi anti-fake news pour légiférer, pour bloquer leur diffusion, ce qui pose aussi des questions en termes de liberté d'expression sur les réseaux sociaux, de liberté d'informer. Est-ce que c'est un juge de décider de supprimer ou pas des contenus qui circulent ? On a aussi les propriétaires des plateformes, Facebook en particulier, qui s'est mis à faire le ménage dans les comptes, dans les informations qui circulaient, en supprimant ou en déréférençant des informations qui circulaient sur son réseau, sur sa plateforme. La question étant là aussi de savoir, est-ce qu'il faut laisser Facebook faire le ménage tout seul sur sa plateforme, puisque là aussi ça pose des questions en termes de liberté d'expression et de liberté d'information. Et puis une quatrième piste que sont les citoyens, les internautes eux-mêmes, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des formes effectivement collaboratives de sourçage des informations à la manière d'un Wikipédia, des sources d'informations en ligne, donc un espèce d'annuaire collaboratif où les internautes pourraient contribuer à sourcer les informations. Alors dit comme ça paraît un peu idéaliste. Il me faudra un peu plus de temps pour vous expliquer comment de tels projets pourraient fonctionner. Mais on voit bien que le problème des fausses informations, c'est qu'il n'y a pas un seul acteur qui peut décider et qu'on a besoin de plusieurs compétences et de plusieurs légitimités pour pouvoir s'attaquer au problème. Et puis, par rapport à la question d'avant qui était comment reconnaître une fausse information ou pas, notamment sur les réseaux sociaux, alors quand vous êtes sur Snapchat, évidemment, la question se pose moins. D'ailleurs, je vous invite à aller voir dans la partie Discover ce que font les journalistes du Monde qui font des contenus assez intéressants justement pour Snapchat. Par contre, quand vous êtes sur Facebook, effectivement, la question se pose comment repérer une fausse information ou pas. La première chose à faire, c'est regarder quel est le nom du site qui publie l'information, utiliser le décodex quand même pour aller voir ce que les journalistes du Monde disent de ce site-là, essayer d'aller voir sur le site, dans les rubriques à propos, qui sont les gens qui sont derrière, pourquoi ils publient cette information. Et puis quand vous êtes sur Facebook, regardez en haut à gauche du post, est-ce qu'il a été sponsorisé ? Est-ce que quelqu'un a payé pour que vous puissiez voir cette information ? Car si c'est le cas, peut-être qu'il y a des raisons pour ça. Et puis la dernière chose, c'est qu'effectivement, comme le disaient Laurent et Jérémy, on a tous notre rôle à jouer là-dedans, et il faut faire preuve d'esprit critique, et il faut bien avoir conscience qu'en tant qu'être humain, on est très imparfait dans notre manière de recevoir l'information et on a ce que les psychologues appellent des biais cognitifs, c'est-à-dire dans notre manière de recevoir l'information, on est fait en quelque sorte pour croire la rumeur, croire les fausses informations. Je vous donne deux exemples de biais cognitifs dont on parle beaucoup. Le premier, c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire que quand on croit quelque chose, on va avoir tendance à retenir toutes les informations qui vont nous conforter dans cette croyance. Autrement dit, c'est pas que on voit ce que l'on croit, qu'on croit ce que l'on voit, c'est plutôt qu'on voit ce que l'on croit. Si vous pensez que, de toute façon, les laboratoires pharmaceutiques contrôlent toutes les instances de régulation dans le domaine de la santé, et bien vous allez avoir envie de croire que le fait qu'on nous impose 11 vaccins, c'est une manipulation du gouvernement qui est commandité par les laboratoires pharmaceutiques. Et donc vous allez avoir tendance à retenir les informations qui vont dans ce sens-là. Et puis un autre biais qui est beaucoup utilisé par les complotistes, c'est ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif. C'est-à-dire que si on vous donne une fausse information, vous allez peut-être avoir tendance à réagir en disant quand même j'ai un petit doute là, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais si on vous en donne 20, 30, 40 à la suite, vous allez avoir tendance à vous dire ah mais en fait il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. Un bon exemple c'est le 11 septembre. Si vous allez sur un site complotiste qui est lié au 11 septembre, les stratégies des complotistes dans ce domaine-là va être de vous donner une centaine d'informations. Pourquoi cette tour-là elle est tombée, elle n'a pas été attaquée, pourquoi il y a eu des cours de bourse qui ont évolué la veille, pourquoi il n'y a pas de traces d'avion au Pentagone. On va vous lister comme ça une cinquantaine d'arguments et à la fin vous allez vous dire il n'y a peut-être pas de fumée sans feu au final. Mais ça, c'est une manière très humaine de réfléchir, alors que si on les prend une par une, on peut y répondre. Mais quand on les met toutes ensemble, c'est ça l'idée du millefeuille, on va avoir tendance à croire. C'est pour ça qu'il faut bien avoir conscience de nos faiblesses aussi lorsqu'on
fait de la recherche
d'un formation en ligne.
Merci beaucoup. Alors, Juliane Sedan, donc élève de Terminal ISOP, a travaillé sur cette conférence avec ses camarades et vous avez listé une liste de. Vous avez listé un ensemble de questions à poser à des invités en fonction de leur publication et de leur parcours. Alors, on a conservé une question pour chacun d'entre eux. Donc, je vous donne la parole pour les poser.
Oui, alors, moi, je vais commencer donc, avec vous, Romain Badoir. Donc, vous enseignez au sein du master journalisme de jeux. Néviguer sur les enjeux politiques du numérique, sur l'analyse des médias et les méthodes d'enquête en ligne, et également vous enseignez au sein du parcours journalisme, édition et communication de la licence Lettres et Sciences Humaines. Donc je vais vous demander donc, comment enseignez-vous aux étudiants donc, à différencier les rumeurs, complots et fausses informations des informations réelles.
Ah, ben non, très bonne question, parce que effectivement, on pourrait penser que parce que on enseigne à des étudiants qui sont dans des parcours de journalisme, ils auraient tendance à avoir un peu plus d'esprit critique par rapport aux sources d'information. C'est pas toujours si évident, notamment sur les questions numériques, et vous êtes très certainement concerné, j'imagine que vous êtes plus ou moins à l'aise avec les technologies numériques, par contre comprendre vraiment comment elles fonctionnent, c'est pas forcément évident. Alors pour vous répondre rapidement, je dirais que pour enseigner justement sur cette question des fausses informations, des rumeurs, il y a plusieurs types de compétences à mobiliser. Il y a d'abord des compétences d'ordre économique. C'est-à-dire comprendre comment fonctionne le marché de l'information sur Internet et comment fonctionne le marché de l'information sur les réseaux sociaux. L'économie du clic, dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de produire à un niveau industriel les fausses informations, ça nécessite de bien comprendre comment ça fonctionne parce que c'est lié. Il y a des compétences aussi qui sont technologiques. C'est-à-dire, vous utilisez peut-être Facebook, mais si je vous demande de m'expliquer comment fonctionne l'algorithme de Facebook, le EdgeRank, qui va hiérarchiser les informations sur le fil d'actualité, peut-être que vous aurez plus de mal à m'expliquer. Sur votre compte Facebook, dans votre fil d'actualité, vous ne voyez que 20% des informations qui sont publiées par vos contacts, par vos amis, c'est-à-dire qu'il y a 80% que Facebook filtre pour vous et dit « non, ça, il n'a pas besoin de le voir ». Pourquoi ? Sur quel principe se base Facebook ? Je ne vais pas détailler, mais ça, c'est le genre de compétences important à connaître. Pareil pour Google. Sur quels critères se base Google pour hiérarchiser, filtrer les sources d'informations ? Donc, des compétences technologiques, ça, c'est aussi important à maîtriser. Il y aura des formes de compétences éditoriales qui sont comment on travaille les journalistes, les professionnels de l'information. Laurent en parlait avant avec le cas du fact-checking. Les journalistes, pourquoi ce sont des professionnels de l'information ? Parce qu'il y a des règles qu'ils respectent lorsqu'ils travaillent. Après, ils ne les respectent pas toujours, mais on va juger d'un bon ou d'un mauvais journaliste à la manière dont il va les respecter. Est-ce qu'il croise ses sources ? Est-ce qu'il va donner la parole à différents points de vue pour les confronter, etc., etc. Est-ce qu'il y a une diversité de témoignages dans ces articles ? Et puis le dernier, ce serait plutôt des compétences psychologiques, c'est ce dont je vous parlais, les biais cognitifs, comprendre comment nous, on fonctionne aussi en tant qu'être humain et comment on peut être sensible et sujet à la désinformation. Donc ça, c'est ce que j'essaye en tout cas de leur enseigner sur ce cas très précis des fausses informations.
D'accord, merci beaucoup pour Romain. Maintenant, je vais m'adresser à vous, Laurent Bigot. Donc, vous intervenez donc, sur différents médias. Vous êtes sûrement déjà trouvé face à une fausse information, ou du moins vous aviez le sentiment vraiment prononcée, c'en était une. Et donc, comment avez-vous réagi? Donc, avez-vous l'envie de témoigner à vos proches qui sont autour de vous, quoi, que bah, non, c'est faux, enfin, faut pas s'y attarder dessus.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ça arrive en fait un petit peu tout le temps, hein, des gens autour de vous qui vous font remonter des informations dont vous savez qu'elles sont fausses et qui continuent à les diffuser ou à en parler autour d'elles. Donc, bon, ces personnes-là, on essaye de les contrer. Alors, encore plus, je pense, quand on est journaliste, bon, ce qui est mon cas. Parce que c'est vrai qu'il y a, de mon point de vue, il n'y a rien de plus navrant que d'entendre des gens continuer à disséminer des fausses informations alors que celles-ci ont peut-être déjà été démenties deux ou trois fois par certains de nos confrères, notamment des fact-checkers en l'occurrence. Mais vous voyez, par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a trois jours, je crois. Quelqu'un m'a dit c'est quand même extraordinaire cette histoire de cité Maya de 2000 km² qui a été identifiée en Amérique du Sud et qui devait à peu près héberger 10 millions d'habitants. Voilà, c'était le discours. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui s'intéresse à ces questions-là, mais quand on entend parler d'une découverte de ce type-là, on se dit, bah oui, c'est vraiment extraordinaire, on n'avait jamais découvert ça avant, etc. Bon, et quand on suit un petit peu les choses, d'une façon un peu plus pointue parce qu'on est journaliste, peut-être, mais il faudrait que tout le monde puisse le faire, on sait que l'équipe notamment de Désintox a complètement démenti cette explication-là. En fait, il n'y a pas du tout de cité Maya d'une telle ampleur qui a pu être découverte. Les journalistes sont juste allés voir le chercheur dont l'étude, le chercheur américain dont l'étude avait été citée comme étant la source. Et en fait, il s'est avéré que c'est un problème de traduction au départ, simplement de passer de l'anglais vers le français. Ça a fait qu'on avait totalement trompé tout le monde finalement, et qu'il n'y a jamais eu du coup une cité Maya d'une telle taille, mais au contraire des dizaines de cités Maya qui, toutes réunies, devaient représenter à peu près 10 millions d'habitants dans tout le pays. Donc ça n'avait strictement rien à voir. Bon, ben ça, on s'en aperçoit régulièrement, et c'est vrai qu'on a envie de faire en sorte que ça se produise pas. Alors moi, en l'occurrence, ce que j'ai pu faire à ma petite échelle, c'est un travail avec les étudiants de l'école de journalisme de Tours, qui, pour leur part, travaillent désormais, quand ils sont en troisième année chez nous, à un site internet qu'on a créé qui s'appelle Factoscope, et qui, au moins pour ce qui est des aspects politiques, hein, puisqu'on est focalisé sur ces aspects-là, on pourrait tout traiter en général, mais pour l'instant on est focalisé sur la politique, font ce travail de fact-checking. En fait. Donc ce qui les, à la fois les sensibilise et à la fois les invite à pratiquer le journalisme d'une façon, on va dire, la plus pointue possible en termes de vérification. Voilà. Et donc c'est vrai que quand on est dans cette logique-là, après, ce dont on s'aperçoit, que ce soit pour eux, que ce soit pour moi, que ce soit pour tous les journalistes fact-checkers avec lesquels j'ai pu discuter, quand on est dans cette posture de questionnement sur tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit à droite à gauche, eh bien on finit par intégrer le doute, hein, dont parlait Jérémy, mais pas un doute qui n'a rien de négatif, un doute qui est juste sain par rapport à toutes les informations qu'on perçoit. Donc c'est ce qu'il faudrait un petit peu finalement chez chacun d'entre nous.
Merci beaucoup, donc Laurent. Donc maintenant Jérémy Nisset pour la dernière question. Donc à travers les médias numériques, donc les sites web, les journaux, la télévision, les réseaux sociaux également, avez-vous le sentiment que les rumeurs, complots ou fausses informations s'étendent à un plus large public et plus rapidement? Et donc également, est-ce que elle s'étend de manière différente avec ces médias numériques?
Je vais prendre votre micro, puis c'est loin l'autre. À la fois oui et non. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, vous avez une vitesse plus grande et une ampleur plus grande pour toucher des populations qu'on ne pouvait pas toucher avec les médias dits traditionnels. Et ça, vous en êtes rendu compte parce que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles vous les utilisez. Et au moment où vous le voulez, ça aussi c'est une importance. C'est-à-dire que l'information a été délivrée avec des cycles et des moments de la journée particuliers selon les supports. On disait souvent que la radio c'était le média du matin, le reste de la journée vous aviez la presse écrite, y compris parce que vous la maîtrisiez, vous avez votre journal en main, donc même si vous l'aviez acheté le matin, vous pouviez lire au moment où vous le vouliez, et c'était bien souvent le soir qu'on avait les infos à la télé. Ça reste en partie vrai, mais c'est évidemment bousculé ces rythmes-là, et aujourd'hui, vous consommez l'information quand vous en avez envie, vous la stockez d'ailleurs en partie, vous la partagez quand vous en avez envie. Pourquoi la partie non? Parce que cette dimension de partage, qui n'a pas eu besoin des réseaux sociaux pour parler à un autre quand vous rentrez dans un café, quand vous rentrez chez vous, etc., elle se faisait là aussi au moment où vous le souhaitiez. Et avec des formations d'information. Sur la dimension de ce que vont être les réseaux sociaux, est-ce qu'on a davantage que sur les autres médias traditionnels dits de masse, ils touchent les masses, et on avait dit bien souvent à sens unique, c'est rare que les publics que nous sommes, que vous êtes, pouvaient à un moment ou à un autre contester, mettre en doute. La seule chose que vous pouvez faire, c'était éteindre votre poste, ou faire la moue, être un peu dubitatif, pas convaincu, etc., mais dans votre coin, entre guillemets. Avec les réseaux sociaux, vous pourrez à un moment ou à un autre renverser la donne, c'est-à-dire donner une importance à quelque chose qui peut-être sur un petit public au départ n'en avait pas, et inversement, ne pas du tout être intéressé par quelque chose qui devrait, en réalité, vous intéresser, parce qu'il aurait une dimension, et attention, politique. Le mot, vous l'entendez aujourd'hui comme très négatif. Pour ceux parmi vous qui ont pu s'y intéresser, politique, c'est P-O-L-I-S en grec. C'est la vie de la cité, ça veut dire. Vous prenez le bus, vous allez le matin en cours, vous allez au sport le soir ou même le matin parfois selon les moments de la journée. Vous organisez votre vie, vous allez faire vos courses, etc., etc. Vous allez voter. C'est l'organisation de la cité. La politique, c'est pas toujours négatif, c'est pas uniquement les périodes électorales. Donc vous allez à un moment ou à un autre pouvoir peser sur ce que sont ces messages-là et vous allez pouvoir leur donner une dimension différente. Là où, malgré tous les réseaux sociaux, et on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure, joue quelque chose de nouveau, c'est que finalement, ils ne s'adressent pas à ces masses, mais qu'ils s'adressent à des populations restreintes. Et pourquoi elles sont restreintes? Ou du moins, très définies, qui peuvent être très larges, parfois plus larges que tel ou tel média, mais très définies, c'est que vous donnez énormément de vous sur ces réseaux, sans qu'en retour, ils vous donnent beaucoup de choses. Vous donnez vos âges, vous donnez votre sexe, vous donnez vos préférences thématiques, vous donnez là où vous habitez, et énormément d'autres informations, vos préférences, vous mettez, et pas uniquement Facebook, hein, les consommations précédentes que vous avez eues, les pages que vous avez ouvertes, etc., etc., qui finissent par affiner vos profils, qui fait, comme l'a dit Romain tout à l'heure, que je vais pouvoir vous envoyer seulement une partie des infos parce que le robot présuppose que c'est ça qui vous touche, vous. C'est un problème, à nouveau, pour ce que j'ai évoqué tout à l'heure, sur partir d'égal à égal, ce dont on parle qui soit à peu près la même chose, et quel que soit votre âge ou votre situation en société, pour un moment ou un autre en parler. Je ne parle pas des légitimités à en parler, c'est un moment ou un autre à en parler, tout court, ou à y penser. Donc ça, évidemment, ça s'est renforcé. Enfin, ça pose un questionnement, et c'est ce qui fait qu'évidemment, les médias dits traditionnels ne jouent pas la même logique que le joueraient aujourd'hui les réseaux sociaux. Je vais vous inviter juste à le penser aussi en termes international. Vous avez vécu, Martin Fourcade, en relais mixte, juste avant qu'on démarre la conférence, vient de gagner sa cinquième médaille, c'est-à-dire deux mecs et deux filles. Lui-même, vous avez vécu il y a deux jours, dimanche midi, je crois, sa victoire à l'arraché contre un Allemand, c'est ça, Jeff. Et vous avez vu beaucoup circuler, pas en radio, mais en télévision et dans les médias visuels, y compris en photo, en presse écrite et en ligne, mais surtout sur les réseaux sociaux, la fin de la course et la photo finish. Ok ? Vous l'avez tous en tête. On est ici sur quelque chose de factuel. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous vous êtes dit, les juges nous trompent ? Vous avez vu les deux lignes, vous avez vu les deux pieds, les deux skis, mais est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez vu la ligne à laquelle ils arrivent ? Ils peuvent l'avoir décalée. On est d'accord ? Si vous êtes sur une culture du doute qui vous ferait dire qu'à un moment ou à un autre, on peut tous être complotistes, on peut tous se mettre à la place du perdant, à penser qu'ils ont triché du côté de l'Allemand, mais ils ne sont pas sur cette logique-là, ou du moins à un moment ou à un autre, on est sur du factuel, on est un peu moins latin quand on est en Allemagne, on accepte d'avoir perdu, on ne va pas aller s'inventer autre chose que ce que sont les faits. Est-ce que vous avez entendu en France une remise en cause de ce que c'est cette photo finish? Non, mais parce qu'elle nous arrange, on a gagné. Je vous invite à autre chose, qui est autre chose que la photo finish. Regardez réellement les 30 dernières secondes de cette course. Martin Fourcade, il ne la joue pas totalement à la loyale, il ferme la porte, comme on dit en sport, à l'autre. À la fois à droite, sur l'intérieur du virage, et puis tout d'un coup un peu plus à gauche, parce que l'Allemand il va à gauche, et il referme à droite. Ça ne nous arrange pas de le voir. En réalité, sur une course loyale, il serait fait un peu griller, même si c'est un des plus puissants, il vient de le reprouver aujourd'hui. Ça ne nous arrange pas. Sur les réseaux sociaux, vous avez entendu ça, vous n'en auriez pas entendu parler en France. C'est probable, et je n'ai pas eu le temps de mener l'étude, qu'à un moment ou à un autre, sur des cercles restreints en Allemagne, il y a un peu plus confidentiel, sportif, pas forcément mauvais perdant. C'est pas leur culture générale, ça peut l'être de certains. Il y a eu un peu cette circulation d'informations. Vous ne l'aurez pas eu en France, vous n'êtes pas touché en cadre national, vous ne l'êtes pas non plus parce que ça vous arrange de penser qu'il a gagné. C'est vrai, d'ailleurs, factuellement, il a gagné. Ben voilà, à un moment ou à un autre, c'est de sortir de ce que sont habituellement ce que vous pensiez, ce qui revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai, à la fois quand vous avez des médias traditionnels qui vous délivrent l'information et sur lesquels vous pouvez peu peser, et sur les autres, celles des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez peser. Reposez-vous toujours les questions, y compris celles qui vous arrangeraient pas. On est d'accord ?
Merci beaucoup. Alors, vous avez apporté beaucoup d'éléments de réflexion sur la nature des fake news, sur leur origine, sur leurs objectifs, sur les manières de lutter de manière individuelle ou collective. Et en même temps, par rapport à l'ensemble de vos recherches, il y a encore énormément de choses qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Il nous reste une petite vingtaine de minutes pour dialoguer avec la salle et voir justement si on a des questions, critiques peut-être, qui vont émerger. Donc, on va prendre une première série de trois questions et je vais demander peut-être à mes étudiants de master qui doivent être quelque part, Anna, Linda, voilà, si vous pouvez faire circuler le deuxième micro qui est dans les mains de... Voilà. Merci beaucoup. Alors, levez la main et puis Anna vous donnera le micro.
Alors, tout à l'heure, vous expliquiez que finalement, que les fake news, c'était quelque chose qui pouvait déstabiliser le pouvoir politique. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui, on le voit avec Donald Trump, ça ne devient pas aussi une instrumentalisation pour le pouvoir politique? Et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là, en tant que chercheur, enseignant, quel discours on peut avoir à ce niveau-là?
Alors, première question, on va te prendre les trois questions, puis on y répondra. Nawel, vous aviez une question aussi devant?
Moi, c'était plus par rapport justement au projet fake news. Je voulais savoir selon vous si ça allait dans le bon sens ou justement c'était un peu une atteinte à la démocratie, notamment avec la liberté d'expression.
Les démarches d'Emmanuel Macron, vous direz ?
D'accord, y a-t-il une troisième question pour ce premier cycle ? Bien, commençons à réparer. Ah, monsieur. Voilà.
Bonjour. Donc, on utilise le terme de fake news, fabrication de news et de fact checking. Et pourquoi pas vérification de faits et fabrication des fausses nouvelles? Mais est-ce que, en fait, il y a quand même un lien avec le monde anglophone et de ce fait, on creux un lien avec le monde francophone qui n'a pas retrouvé une telle ampleur de fabrication de mauvaises nouvelles? Peut-être, je sais.
Alors, commencez par prendre la parole. Vous pouvez tous les trois répondre à votre question. Donc, du coup, qui veut commencer?
Sur les termes français-anglais, ça, c'est vrai que je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Je pense que Laurent en saura plus que moi. Sur la question de la loi anti-fake news et ce que vous disiez sur, au final, est-ce que, enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi à vouloir réglementer un peu les sources d'informations qui circulent? Alors si, très clairement, on parlait tout à l'heure des fake news comme on parlait des fake news tout à l'heure comme obstacle à la démocratie, comme menace pour la démocratie, oui. Mais réguler les fake news, faire une loi sur les fake news, ça peut aussi être une menace pour la démocratie. Dans la loi qui a été annoncée, il y a différents volets. Il y a un volet qui est assez intéressant de transparence, c'est-à-dire qu'on va imposer aux réseaux sociaux de rendre transparent la manière dont des groupes, des individus ont payé pour diffuser leur information. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Il y a dans ce volet de transparence, il y a aussi la logique de réglementer les réseaux sociaux comme on le fait pour les autres médias en période de campagne électorale. Et puis il y a un volet davantage contrainte qui est de permettre de faire supprimer des contenus problématiques via une procédure judiciaire en référé. Et c'est là que le projet de loi est controversé, c'est-à-dire que si on fait supprimer des contenus, est-ce qu'à un moment on va pas trop en supprimer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va supprimer des contenus faux comme les fake news, mais on fait beaucoup aussi dans tout ce qui touche au discours de haine qui se propage sur internet, les propos agressifs envers des communautés, des groupes, etc. Donc tout ça, ou alors j'ai oublié la propagande djihadiste. Donc ces trois là ça paraît légitime de dire on supprime les propos haineux, on supprime les fake news, on supprime la propagande djihadiste. Le problème est de savoir où est-ce que ça va s'arrêter. C'est-à-dire, est-ce que demain on va pas aller trop loin dans l'idée de supprimer des contenus? Est-ce qu'on va pas freiner les modes d'expression des individus sur internet et sur les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de gens qui le pensent. En Allemagne, il y a une loi anti, alors c'est pas anti-fake news, qui était plutôt contre les propos haineux qui a été mise en place. Et là aussi, il y a beaucoup de controverses sur est-ce qu'on n'en fait pas trop dans la suppression, et surtout, est-ce qu'on n'est pas en train de donner les clés de la censure à des plateformes, à des modérateurs qui sont payés par une entreprise privée, alors qu'avant, la censure, les pouvoirs de censure appartenaient à l'État, mais l'État, en démocratie, doit rendre des comptes à ses citoyens, ce qui n'est pas le cas pour des entreprises comme Facebook.
Oui, alors peut-être pour répondre à la question des termes anglophones, oui, il faut certainement regretter l'usage de ces termes, y compris dans ma bouche. En fait, c'est très lié, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, hein, c'est très lié à l'histoire, finalement, de ce journalisme de vérification. Non pas qu'il n'y avait pas auparavant de vérification dans le travail des journalistes français, par exemple. C'est pas du tout le cas, mais simplement la pratique au moment où elle renaît sous une forme très politique aux États-Unis avec des sites comme PolitiFact par exemple, cette pratique de fact-checking a clairement été celle qui a inspiré les médias français. Et c'est vrai que du coup ils se sont un peu emparés de ce vocabulaire-là. Et finalement, les chercheurs qui se sont mis à travailler dessus, dont moi, s'en sont emparés de la même manière. Vous voyez que le site récemment créé, enfin en 2017 par Libération, c'est Check News. Hein, donc voilà, ça a beau être un site franco-français pour le coup. Il a carrément utilisé les termes anglophones. Donc il n'y a pas vraiment d'autres explications par rapport à ça, mais on peut tout à fait dire vérification des faits, vérification par les faits si on le souhaite, il n'y a aucun problème là-dessus, et on parlera bien de la même chose. Et pour évoquer la question, est-ce que les fake news sont à un moment donné utiles au pouvoir, en fait, hein, c'était ça votre question. Oui, bien entendu, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes ou les organisations à l'origine de fake news peuvent être multiples. Hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui, à un moment donné, vous donne une fausse information parce que ça l'arrange que vous pensiez les choses de cette manière-là. Ça peut être le pouvoir en place qui, à un moment donné, a envie que l'on pense telle ou telle chose de sa réforme, qui va donc mettre en avant des informations plutôt que d'autres. Je vous l'ai dit, hein, c'est la même chose avec tous les hommes politiques qui, à un moment donné, dans leur discours, peuvent se mettre à raconter juste n'importe quoi. Hein, ça arrive assez fréquemment quand même, que quand les journalistes fact-checkers les vérifient, se rendent compte que c'est pas du tout ça. Donc, bon, ce sont des personnes intelligentes, ce sont des personnes qui savent pourquoi elles le font. Il y a même chaque année un trophée. fait, qui est remis par un groupe de journalistes et un politologue, qui est le prix du menteur en politique. Hein, bon, voilà. Et chaque année, ils ont un tas de gens à récompenser. Donc, c'est signe que ça vient bien d'un peu partout. Et puis, ça peut venir aussi des médias. Alors là, a priori, pas forcément, quand ce sont réellement des médias journalistiques, pas forcément avec l'intention de tromper. Mais voilà, c'est les sources sont multiples et les États eux-mêmes. On voit que ce que fait la Russie, etc., les États eux-mêmes, les personnalités politiques elles-mêmes peuvent avoir intérêt à le faire, tout à fait.
Jérémy Lunisset ?
Je réponds à votre question sur les velléités du pouvoir actuel, à essayer de légiférer, d'instrumentaliser sans doute cette question-là, mais juste avant ça, sur la dimension du terme international. Fake news est une forme aussi de sidération et d'arroseur arrosé. Je m'explique. Alors même que les journalistes, depuis quelques années, Laurent vous en a rappelé le contexte, essaient de vérifier la parole politique, on est, depuis l'élection de Trump, on s'en rend compte sans doute, pas assez compte en France, alors qu'on voit bien qu'il se passe quelque chose d'énorme par rapport à ce personnage, mais quand on est états-unien, ou quand on est de langue anglaise, et qu'on l'entend parler, face à un vide. Je pense que si vous écoutez Trump, et même si vous n'êtes pas bilingue, vous comprenez ce qu'il dit. Ce qui est un problème quand on est français et qu'on comprend l'anglais du président américain. D'accord ? Ses phrases sont basiques, son vocabulaire est basique, sa façon de penser est basique, mais par chance, il a quand même quelques conseillers qui arrivent à tenir la boutique. Et ce qui a le plus été nommé de sa part, dans sa relation aux médias, y compris les plus sérieux qui allaient à un moment ou à un autre, même quand ça allait contre leur propre pensée, eux, journalistes, faire leur travail, c'était ce qu'étaient ces fausses nouvelles, ce qu'étaient ces fausses affirmations. Lui, qu'est-ce qu'il trouve à redire sur la fin de la campagne, à partir du moment où il est élu, où il est légitime, où il s'en fout, pour le dire clairement, c'est, comme à la cour de récré, quand vous étiez en maternelle, c'est pas toi qui mens, enfin, tu me dis que je mens, c'est toi qui mens, non, c'est toi qui mens, non, c'est moi qui mens, et on n'en finit pas, donc fake news. Vous me dites que je raconte des choses fausses. Non, c'est vous les fake news. C'est vous, CNN, qui nous balancez des infos à la télévision qui n'ont pas vocation à exister. Et donc, on se retrouve face à un public ici intelligent, vous, et un peu plus adulte, intelligent, qui ne peut être que bouche bée. D'accord ? Et qui s'approprie le terme parce qu'il va falloir essayer de le déconstruire. Et c'est un autre avantage, c'est qu'il est international. Pourquoi ? Parce que le phénomène lui-même est international. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Il y a aussi cette tendance à se réapproprier au sein des rédactions beaucoup de termes, le brief, etc. Et c'est pas nouveau hein, dans les rédactions. Qui fait qu'au bout d'un moment, pour gagner du temps et pour ramener à soi une forme de public, ben, on l'utilise aussi à l'extérieur, fact-checking, etc., même si ça en a certains défauts. Pour revenir à votre question, parce qu'elle est aussi une forme d'instrumentalisation, c'est à double tranchant, ce que essaie de faire Emmanuel Macron, et moi j'essaie de le voir à double tranchant, mais du côté négatif. C'est une forme de parade pour dire qu'ils pourront, dans un temps réduit, sur une période sensible, et vous allez voter à la prochaine élection présidentielle, nous dire que si quelque chose circule qui est faux, il pourra être examiné par des juges. Les journalistes eux-mêmes, qui bossent parfois pendant plusieurs jours, plusieurs semaines sur un dossier, arrivent à faire émerger des choses, mais pas dans un temps contraint. Comment le juge le pourrait-il quand il doit le faire à la lumière de ce qu'est le droit ? Il doit examiner ce qu'on appelle en droit, à la lumière des textes qui sont les siens et pas seulement des faits. Parce que les faits nous amènent parfois à être sur du jugement, à rencontrer différentes personnes, comme peut le faire d'ailleurs un journaliste. La seule chose qui pourra être à un moment ou à un autre un avantage pour le corps politique, quel qu'il soit, c'est de temporiser et de faire en sorte, pense-t-il, qu'on n'en parle plus du non-honneur. Mais ça renvoie quand même à quelque chose qui a été la campagne précédente, sur lequel, je ne crois pas que Laurent l'ait mentionné tout à l'heure, le travail de fact-checking des journalistes sur les propos politiques a été particulièrement difficile pour ce qu'était Emmanuel Macron. Pas du côté des rumeurs, mais parce qu'il n'affirme rien, ou n'affirmait rien. Quand on reste sur du flou, vous êtes en train de faire aucune erreur, vous êtes en train de rien dire de faux. Donc venant du personnage, c'est assez fort de café. Je vais juste revenir sur une précision en espérant qu'elle ne vous éloigne pas de notre échange et qu'elle ne soit pas trop technique. Ce qui a été proposé, c'est ce qu'on appelle un référé, pour jouer les choses très rapidement. Le problème, c'est que en droit, et en termes techniques et de procédure, il se pourra qu'une personne qui désire, à un moment ou à un autre, dire qu'il y a là une rumeur, se voient contester et que le référé soit rejeté, qu'il le soit sur une forme de procédure. Pas pour le contenu. Dans un premier temps, le juge n'examine pas le contenu et qu'il dise « Non, ça, je ne veux même pas l'examiner comme étant une rumeur que je rejette. » Qu'est-ce que va retenir le public ? Que si un plaignant a dit une rumeur, avait vocation à être écarté, à être discuté, le juge l'écarte, on ne retiendra pas la forme, la procédure, on retiendra le plaignant avait tort, ce qui était à l'intérieur de la rumeur est donc vrai, a fortiori pour les gens qui voulaient bien croire qu'elle était vraie. D'accord ? Qu'un tel soit gay, comme ça a circulé dans la campagne précédente, qu'un tel soit à se laver les mains quand il rencontre des ouvriers, si on rejette ce que pourrait être cette rumeur, on pourra penser qu'un élément, oui, il se lave les mains quand il est en train de rencontrer des ouvriers. Parce que les gens n'ont pas une conscience de ce que sont tel ou tel métier, à la fois journalistique et parfois celle du droit, qui fait que d'abord on examine la procédure et pas le contenu. Et les gens, ça arrangera de le penser comme ça, vous les empêcherez pas de le faire. Donc c'est à double tranchant, et y compris pour le corps politique, je pense qu'il est en train de mettre le doigt dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Ils ne sont pas assez transparents pour pouvoir exiger une forme de transparence à la fois de vous qui consultez les contenus et les partagez, et à la fois du côté des journalistes. Voilà. Et ça risque de leur tomber fortement dessus. Voilà.
Bien, merci beaucoup. Ce serait votre conclusion, puisque nous sommes au bout de nos échanges. Alors c'est plus qu'une entrée en matière, hein. Il y a déjà énormément de contenu lors de cette première heure et demie, avec les thématiques qui vont être approfondies lors de la deuxième table ronde de l'après-midi, avec Clément Renaud et François Bougon, donc, qui va démarrer dans un petit instant, le temps de changer de plateau. Donc il me reste, et puis demain matin aussi, on aura un moment autour de la sortie du nouveau numéro du Temps des médias sur les fausses informations de la Gazette à Twitter. Voilà une perspective historique un peu sur le temps long autour des fausses nouvelles et des fausses informations qu'on distinguera des fake news. Il me reste à remercier nos trois invités pour leur venue, pour leur contribution, pour leur disponibilité et la richesse aussi de leurs réflexions et de leurs travaux. Je vous invite à les lire, à aller voir un peu ce qu'ils ont produit en termes d'articles, en termes d'ouvrages, et puis à approfondir la question, puisque vous avez compris qu'il y a tout un processus d'appropriation de votre part à mettre en place, mais je crois qu'on est très bien parti. Donc merci à tous pour ce début de médiatique.